VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Conflit en Somalie, ouverture ce jeudi à Londres d'une conférence internationale sur la Somalie pour mettre au point les grandes lignes de nouveaux partenariats économiques et sécuritaires avec ce pays de la Corne de l'Afrique, un des pays les plus pauvres et instables du monde. Il ne s'agit pas de lever des fonds, mais de s'intéresser aux axes de développement économique possibles et de se pencher aussi sur les questions de sécurité, alors que le gouvernement central somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale, est menacé par l'insurrection islamiste des Shebab affiliée à Al-Qaïda. La conférence réunit une quarantaine de délégations et des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Ligue arabe, en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du ministre américain de la Défense, James Mattis, et du numéro 1 de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Le Niger, le Mali et le Tchad, confrontés aux attaques djihadistes et trafics de toutes sortes, ont signé à Niamey un accord historique de coopération judiciaire. Le point avec John Lindon.
Les frontières entre le Mali, le Tchad et le Niger n'existent plus en matière judiciaire, a commenté le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Hassan, qui salue un accord historique dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Pour Marou Amadou, ministre nigérien de la Justice, la signature de cet accord intervient à un moment où le Tchad, le Niger et le Mali sont confrontés aux grands défis de l'heure, le terrorisme et le crime organisé, le trafic de drogue, la traite des personnes et le trafic des armes. L'accord signé par les ministres de la Justice de ces trois pays prévoit la mise en place de commissions rogatoires internationales, l'échange entre les États des actes judiciaires, la comparution des témoins, experts et personnes poursuivies et une politique de coopération en cas d'extradition. Il autorise également des enquêtes conjointes et le transfert des poursuites. Les trois pays sont en proie à de nombreuses attaques des groupes djihadistes, dont Boko Haram.
Au Burkina Faso, les syndicalistes se mobilisent contre une loi qui restreint le droit de grève dans de nombreux corps de la fonction publique. Norbert Ouangré, le secrétaire général adjoint de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina, dit non à la proposition déposée sur la table des députés. On l'écoute.
Cette proposition de loi a été imaginée, en fait, pour empêcher les grèves, pour faire en sorte que les grèves ne puissent plus porter fruit, pour regarder les problèmes qui sont posés. Est-ce que c'est des problèmes objectifs ou pas? Et quand vous considérez que dans bien des cas, il s'agit d'engagements qui ne sont pas tenus, on ne peut pas reprocher aux travailleurs de faire beaucoup de mouvements. La proposition de loi, effectivement, est une remise en cause du droit de grève. Elle viole certaines conventions du PIB relatives justement au droit de grève, comme la convention 87, la convention 98. Si on veut nous empêcher juste du droit de grève, nous allons mener la grève.
Norbert Ouangré, le secrétaire général adjoint de la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina. RCA, Amnesty International et plusieurs organisations de la société civile centrafricaine lancent 11 mai une campagne nationale pour exhorter les autorités centrafricaines à s'engager contre l'impunité en forçant les responsables de crimes graves à répondre de leurs actes. Olivia Chamba, la responsable chargée des campagnes d'Amnesty, explique les enjeux de cette entreprise.
La campagne que nous lançons, la justice maintenant pour une paix durable en République centrafricaine, elle est une campagne qui vise à obtenir justice et réparation pour les victimes. Dans le cadre de cette campagne, nous appelons à veiller à ce que les accusations sérieuses de crimes relevant du droit international et d'autres atteintes aux droits de l'homme fassent l'objet dans les plus brefs délais d'enquêtes rigoureuses, indépendantes mais impartiales. Nous mettons l'accent en fait pour atteindre cet objectif sur deux points clés, notamment le renforcement du système judiciaire national qui a été très affaibli par la crise depuis 2012 et ce renforcement notamment en garantissant le bon fonctionnement des juridictions nationales pour mettre fin au cycle de l'impunité. Mais au-delà de ce volet national de la justice, il est important aussi de veiller à apporter un soutien nécessaire à la Cour pénale spéciale ainsi qu'à la Cour pénale internationale afin que justice soit rendue pour ces milliers de victimes.
Olivia Chamba, la responsable chargée des campagnes d'Amnesty International.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, 3 mois et 1 jour après sa mort, le chef historique de l'opposition congolaise Étienne Tshisekedi n'est toujours pas enterré. Son parti, l'UDPS, a renvoyé à une date ultérieure le rapatriement de sa dépouille à Kinshasa, prévu le 12 mai. Le parti du défunt continue de se battre avec le pouvoir en place au sujet de ses funérailles et de son lieu de sépulture. Pour une analyse, Eddy Sango a joint un compagnon de lutte de l'opposant décédé, François-Xavier Belchika.
Nous aurions souhaité qu'aujourd'hui, la date qui a été annoncée puisse être respectée. Mais cela ne peut être respecté que dans la mesure où il y a un consensus entre les dirigeants du pays aujourd'hui, la famille biologique du président Tshisekedi et sa famille politique. Voilà pourquoi nous demandons et nous lançons vraiment un appel que si, effectivement, les 12 dates prévues se montrent impossibles d'être respectées, que les uns et les autres se dépassent pour finalement essayer de défier en face du monde, en face de l'Afrique et en face du Congo profond, ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de subir comme humiliation, comme gêne et comme honte. Et je crois qu'il n'est pas trop tard pour enfin trouver une solution qui permette à ce que le président Tshisekedi Wamulumba puisse bénéficier de l'inhumation digne de son combat politique. D'autant plus que les derniers jours de sa vie, il nous a laissé un testament. Le principe selon lequel l'union fait la force, la question de l'interrogation sur le posture des uns et des autres semble prendre, n'est-ce pas, le devant sur l'intérêt général, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la République et l'intérêt du peuple.
Mais comment comprendre que la dépouille mortelle d'un aussi grand personnage puisse faire l'objet de marchandages, et c'est là au contraire de mœurs et de cultures africaines?
Le calcul politicien, la recherche du positionnement, l'exploitation incommode, impropre de cet événement semble avoir pris le devant sur l'intérêt général de la nation, l'intérêt général de la République et pourquoi pas sur l'image de l'illustre disparu.
Pensez-vous que ce soit les lieux des obsèques ou de la construction du mausolée qui posent réellement le problème?
Le pouvoir ne devrait pas avoir peur qu'on puisse rapatrier le corps du président Tshisekedi. Mais l'essentiel est qu'il puisse trouver en accord avec la famille politique du président Tshisekedi et surtout la famille biologique un lieu où on peut l'enterrer, mais que ce soit sur le sol de ses ancêtres. Nous ne croyons pas que cela soit impossible. Même si aujourd'hui on ne veut pas lui construire le fameux mausolée, l'histoire n'étant pas inerte, si un jour il advient dans ce pays un pouvoir qui reconnaît au président Tshisekedi le mérite de tout son combat, ben celui-là pourra très bien construire ce mausolée-là.
Vous parlez du marchandage. Certains pensent que son fils voudrait utiliser la dépouille mortelle comme une sorte d'épouvantail afin de réclamer la primature.
Tout ce que nous disons, qu'on ne fasse pas la confusion, qu'on puisse laisser le président Tshisekedi Wamulumba partir en paix avec la volonté de souhaiter que la terre de ses ancêtres lui soit légère.
François-Xavier Belchika, président du Congrès des démocrates pour le progrès social en RDC. À l'actualité américaine maintenant, le président Donald Trump continue à défendre sa décision de limoger le directeur du FBI, James Comey, en déclarant hier à la Maison-Blanche que M. Comey tout simplement ne faisait pas du bon boulot. Auparavant, dans un tweet, le chef de l'exécutif américain avait accusé l'ex-chef de la police fédérale d'avoir perdu la confiance de tout le monde à Washington, républicain comme démocrate. Jean-Roger Bion.
M. Trump s'est promis de remplacer M. Comey par quelqu'un de meilleur qui restituera au FBI l'esprit et le prestige qu'on lui connaît. De leur côté, le vice-président Mike Pence et la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee, ont défendu la décision du président. Et Huckabee a répété les reproches faits hier à M. Comey dans les 2 lettres des patrons du département de la justice. Mais les détracteurs du président se demandent, eux, si ce limogeage n'était pas lié à l'enquête du FBI sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine de novembre dernier et une collusion éventuelle entre des membres de la campagne de M. Trump et des intérêts russes. La sénatrice démocrate Diane Feinstein, vice-présidente de la commission judiciaire, a dit que le départ de M. Comey et le timing de cette décision doivent être examinés. Son collègue républicain Lindsey Graham a pour sa part cité les récentes controverses autour de James Comey, estimant qu'un nouveau départ ne serait pas une mauvaise chose pour le FBI et la nation. Mais d'autres parlementaires républicains estiment que la décision du président a causé une rupture. Leurs homologues démocrates ont quant à eux continué à réclamer la nomination d'un procureur spécial pour poursuivre l'enquête du FBI.
Pour terminer, en France, le mouvement politique d'Emmanuel Macron, La République en marche, dévoile ce jeudi une première liste de ses candidats aux législatives de juin. La passation de pouvoir entre l'actuel chef de l'État François Hollande et Emmanuel Macron aura lieu dimanche. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.